dit la phrase bien connue, qui dit « ce sont les idées qui mènent le monde » pour être au fronton de chaque université, à commencer par la Sorbonne. Et c'est ce qui se joue avec ce dont nous parlons aujourd'hui, puisque nous voyons bien qu'il y a là un débat intellectuel, du plus grand intérêt d'ailleurs, mais que ce débat intellectuel a évidemment de très grandes conséquences pratiques, des conséquences politiques, des conséquences civiques, des conséquences sociales et sociétales, et que donc il se joue au travers des idées, quelque chose qui a trait tout simplement à la vie. Et donc, travailler sur cet enjeu, c'est aussi une façon de mettre les choses au niveau où elles doivent l'être. J'ai vu qu'il y avait parfois, par exemple, des contestations sur le fait même que vous organisiez un tel colloque. C'est un peu paradoxal. Je pense que les gens qui peuvent se considérer comme touchés par les travaux que vous proposez devraient se considérer comme anoblis par les travaux que vous accomplissez. Car en effet, il faut prendre au sérieux les théories qui sont posées. Et je crois que dans tout ce que vous allez faire aujourd'hui et demain, il y a, et au-delà bien sûr, il y a tout simplement un travail intellectuel et scientifique qui consiste à voir justement ce qui relève des sciences sociales, ce qui n'en relève pas, et aussi analyser le phénomène en tant que ce phénomène plein et entier. Il y a un fait social indubitable, quelle que soit la nature des théories dont il va être question dans ce colloque, et ce fait social doit être analysé pour ce qu'il est sur le plan intellectuel, mais aussi pour ce qu'il produit dans la société. Par exemple, les phénomènes de harcèlement qui peuvent exister dans certaines universités, dans le monde entier, pas seulement en France. On sait d'ailleurs qu'aux États-Unis, la chose a parfois atteint un degré extrême. Ces phénomènes-là sont des faits sociaux. Il faut les analyser. Pourquoi est-ce possible? Pourquoi est-ce que tel courant produit ce type d'attitude? C'est donc un travail, par exemple, de sociologie qui doit être mené sur ces questions. Qu'est-ce qu'il y a, par exemple, comme motivation derrière ceux qui pensent qu'il est bon d'annuler un événement académique parce qu'il ne convient pas à leur mode de pensée? Est-ce que nous, ici, nous serions d'accord pour annuler un événement académique qui ne correspond pas à notre mode de pensée? Il y a donc des enjeux qui sont des enjeux profondément humains, qui sont des enjeux donc intellectuels et pratiques. Et puis, il y a évidemment un travail qui est de nature philosophique. Je sais que vous allez le mener, que vous avez aujourd'hui des invités et des intervenants qui ont beaucoup réfléchi à ces questions qui sont du plus haut intérêt, c'est-à-dire à quel moment de notre histoire nous trouvons-nous pour qu'il y ait un tel goût pour la déconstruction? Pourquoi est-ce que ce mot de déconstruction a eu tant d'importance dans la vie intellectuelle des dernières décennies et tout particulièrement des dernières années? Pourquoi un tel appétit pour ce mot? Qu'est-ce qu'il nous dit de nous-mêmes? Qu'est-ce qu'il nous dit du moment historique où nous nous trouvons? Qu'est-ce qu'il nous dit de notre trajectoire historique? D'une certaine façon, nous sommes dans un lieu où il a été beaucoup question à certaines périodes de philosophie de l'histoire, y compris en mai 68, où ce sujet de la philosophie de l'histoire était regardé très fortement. Et on ne parle plus beaucoup de philosophie de l'histoire, parce que plus grand monde ne pense qu'il y a un sens de l'histoire. Pour autant, que l'on remonte à Hegel ou à d'autres théoriciens, il est extrêmement important de se demander les grandes tendances qui sont à l'œuvre. D'autant plus qu'il y a une dialectique à l'œuvre dans l'histoire, c'est en tout cas ce que je pense. Autrement dit, des idées s'opposent et elles conduisent souvent à des stades ultérieurs. Et nous savons que dans des périodes précédentes de l'histoire, se sont opposées des visions, et que notamment lorsqu'il y a eu la Révolution française, lorsqu'il y a eu aussi la naissance de l'université moderne, surtout au début du XIXe siècle en Allemagne, se sont opposés des courants qui ressemblent un peu aux oppositions que nous avons aujourd'hui. Quand il y a eu la Révolution française, dans toute l'Europe, et tout particulièrement en Allemagne, des idées inverses, que l'on qualifiait alors de réactionnaires, se sont développées. Le paradoxe aujourd'hui, c'est que les héritiers de ces idées réactionnaires se prétendent progressistes. Mais cette dialectique, elle était déjà à l'œuvre à ce moment-là. Il y a des gens à qui les idées des Lumières font peur. Or, l'université, en tant que telle, est héritière des Lumières. Et donc, il y a quelque chose qui doit être d'emblée identifié, c'est que notre civilisation, notre société, notre république est héritière d'une histoire, et que cette histoire a des fondements philosophiques, et que ces fondements philosophiques n'ont jamais fait pleinement consensus dans le monde entier, loin s'en faut. Nous sommes largement revenus de l'idée d'une fin de l'histoire, telle qu'elle a pu être développée dans les années 90, dans une sorte de mauvaise redécouverte de Hegel, justement. Mais nous sommes revenus aussi de l'idée qu'il pouvait y avoir une sorte de consensus démocratique qui serait aussi un consensus républicain à travers le monde. Nous voyons au contraire, d'un point de vue géopolitique, qu'il y a des menaces extrêmement importantes sur la démocratie et que certaines idéologies s'articulent avec ces menaces sur la démocratie. Elles tolèrent la menace sur la démocratie dès lors que c'est une menace sur le monde occidental. Il y a comme une haine de soi qui se développe au travers de ces idées, qui elle aussi doit être identifiée et qui la relève peut-être plus de la psychologie que de la sociologie. En disant cela, je ne fais que ouvrir des petites pistes qui ont déjà été bien mieux ouvertes par d'autres que moi, et je sais que cela sera certainement fait au cours des débats. Mais je le dis en introduction parce que je pense que les choses doivent être situées au niveau intellectuel où elles doivent l'être, mais aussi au niveau historique où elles doivent l'être. Pas seulement dans l'immédiateté de l'événement, de ce que nous lisons tous les jours en nous scandalisant de telle ou telle chose, parce que ceci ne mène pas à grand-chose, mais vraiment dans une perspective historique profonde pour comprendre où nous sommes et quel est le travail intellectuel qui doit être fait pour préparer l'avenir. Ce travail intellectuel, il suppose des initiatives comme celles que vous avez prises aujourd'hui, et je suis sûr que ce sera suivi de bien d'autres. Alors, quelles sont ces valeurs auxquelles nous croyons ? Parce que ce qui m'importe aussi dans l'initiative que vous avez prise, ce n'est pas seulement de critiquer, ce n'est pas seulement d'être sur la défensive, ce n'est pas seulement d'être dans l'immédiateté, comme je le disais précédemment, mais c'est au contraire de construire face à la déconstruction. Que construire ? Qu'avons-nous à proposer ? Pourquoi il y a une telle attractivité vis-à-vis de la jeunesse des pensées de la déconstruction ? C'est parce que elles ont le mérite d'exister, si je puis dire. Elles ont le mérite de présenter quelque chose. Et elles ont la force de s'approprier des thématiques valables. Prenez l'écologie, il y a une vision woke de l'écologie, il y a une vision républicaine de l'écologie. Prenez le féminisme, qui est une cause fondamentale, il y a évidemment une vision woke et une vision républicaine. Lorsque nous lisons Elisabeth Badinter, nous ne lisons pas la même chose que d'autres auteurs de moindre qualité sur ces questions. L'égalité homme-femme débouche sur une paix entre les hommes et les femmes, pas sur une guerre des sexes. Il y a donc là aussi une nécessité de regarder ces sujets avec la grille de lecture appropriée. Et ce n'est pas le seul sujet. La lutte contre la discrimination est une lutte essentielle, mais cette lutte doit avoir la bonne grille de lecture. Je l'appelle républicaine parce qu'elle se fonde tout simplement sur l'égalité entre les êtres humains et les citoyens. Et donc, la pensée des Lumières est une pensée qui, comme je le disais tout à l'heure, n'a de toute façon jamais fait l'unanimité, et c'est une pensée qui doit être en permanence renouvelée, parce que nous ne devons pas faire non plus comme si la pensée des Lumières n'avait pas connu des crises importantes, bien réelles, au cours du XIXe et du XXe siècle, qui nous obligent à penser différemment de ce qui se pensait à la fin du XVIIIe siècle. Nous sommes passés notamment par les tragédies du XXe siècle, et c'est aussi, évidemment, nous le savons bien, une des raisons de la crise du progrès et de la crise de l'idée des Lumières. Et donc, surtout, ne tombons pas dans la facilité qui consisterait simplement à revenir aux origines et à penser que tout se résoudrait ainsi. Il faut penser les Lumières du XXIe siècle à la lumière des impasses qui ont pu y exister, des fossés dans lesquels nos sociétés ont pu tomber au cours du XXe siècle en particulier, et trouver la voie qui, elle, puise à la même source. Et cette source, c'est une source dont le mot-clé est fondamental dans le lieu où nous sommes, un mot-clé qui était un peu galvaudé dans les temps précédents, un mot-clé qu'on n'utilisait plus tellement on pensait qu'il était partagé par tout le monde, un mot-clé qui est pourtant au cœur du projet de vie individuelle et collective que l'on doit avoir, en tout cas à mes yeux. Et ce mot-clé, c'est tout simplement le mot d'humanisme. L'humanisme est à la racine de la pensée d'une pensée de construction, d'une pensée qui dessine un avenir, d'une pensée, pour le dire en termes antagonistes, anti-nihiliste, puisque finalement, ce dont je parle depuis tout à l'heure, c'est le développement de pensées nihilistes face à des pensées qui ouvrent l'avenir pour l'être humain et qui placent l'être humain au centre de la société, qui placent l'être humain dans une perspective de progrès, en ne faisant pas fi de toutes les connaissances anthropologiques que nous avons sur l'humain depuis le début des sciences sociales, mais au contraire, en s'appuyant sur ces connaissances pour aller de l'avant. Et c'est de là que peut naître un projet politique, un projet de société, un projet qui fait envie, un projet qui fasse envie à la jeunesse. Nous savons bien que là, il y a du chemin à faire, aussi bien sur le fond que sur la forme, de façon à ce que ce nouvel humanisme, ce nouvel universalisme, soit finalement ce qui puisse attirer à la fois de nouvelles pensées et de nouveaux acteurs. Ce qui est évident, c'est que nous avons aujourd'hui à défendre des choses dont nous pensions précédemment qu'elles n'étaient plus à défendre, et qu'en les défendant, nous ne devons pas seulement nous défendre, mais nous devons être à l'offensive pour de nouveaux concepts et de nouvelles propositions. Qu'est-ce que nous avons à défendre ? J'ai commencé à le dire, mais je voudrais l'expliciter clairement. D'abord, à défendre l'universalisme face à la montée des revendications identitaires. Nous sommes dans une période très politique au moment où je parle, et souvent on a utilisé à juste titre l'expression de tenaille identitaire. Nous sommes pris entre des extrêmes gauches et des extrêmes droites, j'utilise à dessein le pluriel, qui cherchent à avoir une lecture du monde au travers de l'assignation à résidence identitaire. L'être humain se définirait d'abord, selon eux, par là d'où il vient, par son contexte culturel, familial, avant même d'être défini comme un être humain. Ce danger est considérable, qu'il vienne de l'extrême gauche ou qu'il vienne de l'extrême droite. Et donc nous devons défendre l'universalisme au moment où, en plus, sur un plan géopolitique, cette idée a tendance à se restreindre et en tout cas à être menacée, où par exemple le multilatéralisme souffre. Nous devons aussi défendre la raison. La raison, non pas dans une forme de rationalisme absolu qui, encore une fois, a montré certaines limites depuis deux siècles, mais la raison en tant que capacité de l'être humain à se penser lui-même et à penser la civilisation. Et face à l'émotion, il y avait déjà ce clivage au moment de la Révolution française avec le romantisme allemand, face à l'émotion qui évidemment est une dimension essentielle de la vie, nous devons poser que la raison dans la vie collective et politique prime. Aujourd'hui, on voit que tel discours devient insupportable, non pas parce qu'il serait infondé en raison, mais parce qu'il risquerait d'offenser. Et ce règne de la victimisation, ce règne de l'idée qu'on ne peut rien dire qui puisse blesser, est évidemment, dans un premier temps, séduisant pour certains, parce qu'il a l'air d'être protecteur, ce discours. En réalité, il est plein de dangers pour la liberté, et nous le savons, parce que c'est au nom de cela que, par exemple, on interdit des événements intellectuels ou culturels. Et puis, avec l'universalisme et la raison, il y a donc l'humanisme, la dignité humaine, tout simplement. Et cette dignité humaine, posons-la comme un absolu, comme étant notre idéal, et que cet idéal est à la source d'une démarche scientifique comme d'une démarche politique. Il faut, alors qu'on voit émerger tant de relativisme autour de nous, qui cherche à dire aussi que tout se vaut, dire que, en puisant dans aussi nos racines intellectuelles et philosophiques, et notamment les racines antiques, le bien, le vrai, le beau doivent en permanence être repensés, et que les relativiser, c'est aussi relativiser notre futur. Alors, est-ce que ces contestations de l'universalisme, de la raison et de l'humanisme sont si graves ? J'entends souvent, dans des médias ou ailleurs, qu'il y aurait une sorte d'exagération de la part de personnes comme vous, comme moi, quant au danger. Je crois au contraire qu'il est largement temps d'être attentif à ce qui se passe. Et que même si dans le monde des idées, les choses ne paraissent pas souvent dangereuses, quand on commence à voir ce qui en ressort, il est souvent trop tard, et il est déjà un peu tard quand on voit ce qui se passe dans certains endroits, dans certains pays, et encore une fois, l'analyse de ce qui se passe aux États-Unis en particulier nous en offre l'illustration. Et puis c'est grave parce que ces idéologies et ces concepts sont tout simplement à l'opposé des valeurs de notre République. La liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. Et nous avons, oui, un modèle français, et j'espère un modèle européen, que l'on doit défendre dans de telles circonstances. Et encore une fois, ce n'est pas la première fois que ce modèle est mis en cause ou que ce modèle est attaqué. Simplement, cela prend des formes nouvelles. Il y a un risque d'éclatement du sens collectif, un risque d'atteinte à l'idée même de république, il y a un risque de recul des libertés, il y a un risque d'affaissement de la pensée. Et encore une fois, félicitations pour l'organisation de ce colloque, parce qu'un des grands risques que nous courons sur ces sujets, y compris nous, c'est d'être tiré vers le bas, si vous me permettez l'expression. C'est d'être sans arrêt, finalement, à défendre des choses qui nous paraissent tellement évidentes qu'on en finit par énoncer des choses qui, en réalité, ne sont pas très élaborées sur le plan de la pensée, parce que cela devient des débats de cours de récréation. Et évidemment, la vie médiatique incite à cela. Il est donc essentiel de mettre les choses à tous leurs niveaux, et tout le monde y gagnera, y compris ceux qui pensent différemment de nous, et heureusement que nous sommes justement dans une société qui permet la diversité des approches. Mais là aussi, on doit être exigeant. Et exigeant d'abord avec nous-mêmes, c'est-à-dire exigeant sur la qualité et la cohérence de ce que nous produisons par écrit et par oral sur ces enjeux. Et c'est cela qui produira de l'optimisme. Parce que de toute façon, si ce sont les idées qui mènent le monde, alors c'est la qualité des idées qui toujours triomphe. Et c'est sur un grand vide que des théories qui ne nous vont pas ont pu avancer. C'est pourquoi il faut remettre sur l'établi des sujets aussi importants que l'humanisme, des sujets aussi importants que l'idée de république, des sujets aussi importants que l'idée de démocratie, dont on voit bien qu'elle connaît une crise à la fois existentielle, puisque sa place diminue dans le monde, mais aussi des sujets presque ontologiques, c'est-à-dire que sa définition et ses modalités méritent sans arrêt d'être repensées. Et là aussi, il ne s'agit pas simplement de revenir aux sources, il s'agit d'imaginer et de créer les nouvelles formes démocratiques dont nos sociétés ultra-technologiques ont besoin. Et nous savons tous, et je voulais évidemment insister sur ce point, que tout commence et tout se fonde sur l'éducation. D'où mon implication aussi sur ce sujet. L'école est la mère de toutes les batailles, puisque les idées sont à la base de toutes les batailles. Et l'école a toujours assumé en France, depuis qu'elle existe en tant qu'école de la République, d'être l'épine dorsale de la République. Et elle est, l'école est l'endroit où non seulement chaque destinée humaine peut se forger dans une égalité des chances, et c'est le but fondamental, mais elle est aussi le lieu qui consolide tous les jours la République. Parce que chaque classe est une petite République, d'une certaine façon, et que chaque enfant y apprend ce que c'est que de faire République. Et l'école, évidemment, est soumise aux évolutions de la société. Parfois, l'école est victime des évolutions de la société. Et nous l'avons malheureusement vécu de la façon la plus dramatique qui soit, avec l'assassinat de Samuel Paty. Puisqu'avec cet assassinat, c'est le projet scolaire lui-même, et donc le projet républicain, qui a été attaqué. L'idée qu'un professeur, parce qu'il enseigne, et parce qu'il enseigne à la fois avec raison et avec courage, et avec aussi le sens du doute qui va avec tout cela, c'était ce qui caractérisait Samuel Paty, eh bien pour cela, il a été tué. Cet événement est nodal dans notre histoire. Il y a un avant et il y a un après, et ce qui signifie doit nous faire réagir de la manière la plus pertinente qui soit, c'est-à-dire par des initiatives comme celle-ci. Tout ceci n'est pas que théorique, c'est aussi pratique. Dans le domaine scolaire, depuis que je suis en responsabilité, j'ai agi sur ces questions. La question de la laïcité, je l'ai posée tout de suite en arrivant. La question de l'action aussi. On dit parfois que le système scolaire serait caractérisé par l'idéologie du pas de vague. J'observe d'ailleurs que parfois ceux qui disent cela sont ceux-là même qui me reprochent d'agir dans le sens contraire du pas de vague. Mais le fait est que l'école, telle que j'ai souhaité qu'elle évolue, le système scolaire tel que j'ai souhaité qu'il évolue, est dans l'idéologie inverse du pas de vague. Signalement des problèmes, parce que le signalement est ce qui va vers la solution. Lucidité devant les réalités. Et surtout, action face aux réalités. C'est comme ça que nous avons créé un conseil des sages de la laïcité pour avoir des normes de référence très claires. Nous avons créé des équipes valeurs de la République et laïcité dans les académies pour venir en appui des professeurs chaque fois qu'il y avait un problème. Et il y a donc eu des actions dans ce sens. Aujourd'hui, auprès de chaque recteur, nous avons créé ce qu'on appelle le carré régalien, c'est-à-dire des personnes dédiées aux valeurs de la République, à la laïcité, à la lutte contre la radicalisation, à la lutte contre le harcèlement et à la lutte contre toutes les violences. Cela signifie, encore une fois, que nous tissons un fil entre l'approche des idées, l'approche théorique, et c'est vrai dans le système scolaire, quelles sont les normes de référence, qu'est-ce que la République, qu'est-ce que la laïcité. Il faut d'abord définir pour savoir où on va, pour avoir un cap. Et ensuite, tout ceci a été mis en amont en pratique parce que ce sont des femmes et des hommes qui, au quotidien, font vivre cela. Et c'est ainsi, et vous y avez participé, cher Pierre-Henri Tavoyot, que nous avons formé des formateurs de formateurs dans notre système scolaire pour que dans la lignée des préconisations qui m'avaient été faites dans le rapport Aubin, eh bien, nous puissions former tous les professeurs de France aux enjeux de la laïcité et que personne ne se sente démuni face à cela. Il s'agit de re-républicaniser l'école, de lui donner cette ossature sans laquelle elle ne peut pas vivre. Chaque fois que l'école s'éloigne de la République, elle s'éloigne d'elle-même. C'est consubstantiel. Encore une fois, l'école de la République est une école de la République. Ce n'est pas une formule toute faite. Les mots ont un sens. Elle est l'école de la République. Et donc, ça signifie qu'elle est l'épine dorsale et qu'elle est, par rapport aux enjeux républicains, ce que nous devons fortifier en permanence. Alors, ce que je viens de décrire pour l'école, je pense que ça vaut pour l'ensemble de la société. C'est-à-dire que on ne doit pas être simplement sur la défensive. Et j'ai dit tout à l'heure que l'attitude défensive ou d'immédiateté est forcément vouée à de grandes limites. Mais nous devons être à l'offensive sur le plan intellectuel. C'est le terrain des idées qui doit être conquis. Et je suis, je tiens à le dire, optimiste sur cette question. Parce que je vois, avec vous qui êtes là aujourd'hui et avec bien d'autres, qu'il y a maintenant une prise de conscience que nous devons déconstruire la déconstruction et arriver à de nouvelles approches. Ne nous vivons pas comme un village gaulois qui serait en quelque sorte en train de défendre tant bien que mal un terrain qui se perdrait progressivement. Bien sûr, la situation est complexe, sur ce point comme sur bien d'autres. Mais nous avons à la fois toute l'énergie cinétique de l'histoire des idées, et elle est forte dans notre pays. Et puis, s'agissant de la France, nous sommes regardés. Je voudrais insister sur ce point. Ce n'est pas pour rien que notre pays est particulièrement attaqué sur ces enjeux. Et il l'est d'ailleurs de la part de secteurs et de territoires du monde différents. Une bataille culturelle nous est livrée sous bien des angles. Et nous devons mener cette bataille, et beaucoup de pays la regardent. Si je prends l'exemple de la laïcité, qui n'est pas le seul exemple, certains cherchent à ringardiser l'approche française. Souvent, on essaye de nous dire que la laïcité, c'est un concept spécifiquement français, qui est incompréhensible ailleurs, et qui, en plus, est très daté historiquement, et qui ne vaudrait plus. Je prétends totalement le contraire. D'abord, il y a d'autres pays que le nôtre qui ont connu ou qui connaissent la laïcité, à commencer par la Turquie, qui l'a connue pendant de longues décennies, ce qui montre bien que, y compris dans un pays musulman, la laïcité peut avoir droit de cité et peut fonctionner. Ça a été le cas longtemps. Mais la laïcité existe, par exemple, en Uruguay, avec ce mot-là, pour prendre une partie du monde que je connais mieux. Mais la laïcité, surtout, quel que soit le nom que l'on utilise, correspond à un sécularisme, correspond à une capacité à distinguer le temporel et le spirituel, qui, bien entendu, est une aspiration universelle et que l'on retrouve partout sous une forme ou sous une autre, et qui mérite d'être pensée. Non pas parce qu'on voudrait exporter la laïcité française telle qu'elle partout, ce serait absurde et certainement pas souhaitable, d'ailleurs. En revanche, penser aussi bien à l'échelle de l'Europe qu'à l'échelle du monde, les nouvelles formes au XXIe siècle de distinction du spirituel et du temporel, en ne nous laissant pas caricaturer comme étant des personnes qui éliminent la dimension spirituelle, de même qu'on n'éliminerait certainement pas la dimension émotionnelle dont j'ai parlé tout à l'heure, mais au contraire, dans une vision pleine et entière de l'humain, être capable de faire cette distinction et d'être aussi, de développer des pensées qui laissent toute leur place à la quête métaphysique de l'homme, cet enjeu-là, il est évidemment devant nous, et nous devons le relever. Et le monde entier regarde ce qui se passe en France parce que le monde entier sait que dans ce pays, des idées de ce type ont pu germer. Des idées d'un type différent ont pu germer aussi, d'ailleurs. Et d'une certaine façon, c'est nous qui avons inoculé le virus avec ce que l'on appelle parfois la French Theory, qui d'ailleurs avait des aspects très intéressants sur un plan strictement intellectuel. Maintenant, nous devons, après avoir fourni le virus, fournir le vaccin, si vous me permettez cette métaphore qui malheureusement nous rappelle l'actualité. Mais nous devons aujourd'hui avoir une ambition théorique qui nous permette d'apporter quelque chose, mais aussi une ambition pratique. Pour terminer, je dirais que je n'oublie pas, en prononçant tous ces mots, que nous sommes aussi aujourd'hui même au 7e anniversaire, au triste anniversaire, de l'assassinat de ceux qui travaillaient à Charlie Hebdo. C'était un jour triste, c'est un anniversaire triste. Nous avons malheureusement maintenant plusieurs anniversaires tristes dans notre calendrier. Mais cet anniversaire triste doit au contraire servir de levier à notre action. Il n'y aurait rien de plus triste, justement, que de passer par pertes et profits ces victimes d'assassinats lâches, ignobles, qui ont visé très clairement la liberté d'expression, et donc le cœur de ce que nous défendons, c'est-à-dire la liberté. Avec cet assassinat, il y a là aussi eu un avant et un après, autour de l'enjeu de la liberté. J'ai souvenir de la mobilisation gigantesque qu'il y avait eu à ce moment-là. Cette mobilisation était pleine d'espoir. Et puis nous avons vu ensuite que les lendemains de cette mobilisation, finalement, eux, étaient décevants. Que nous n'avons pas su tirer pleinement toutes les leçons de ce qui s'était passé et que d'autres événements graves se sont passés ensuite. Nous devons aujourd'hui montrer que la force est du côté du droit, que la force est du côté de la République, que la force est du côté de la vie des idées, et que la France se sent forte dans ces circonstances-là, précisément parce qu'elle a les idées claires, parce qu'elle a un héritage intellectuel d'une immense richesse, et que nous devons aujourd'hui, et dans les temps futurs, puiser dans cette richesse pour montrer que nous avons encore confiance dans l'homme, que nous avons encore confiance dans la République et encore confiance dans la démocratie. Je vous remercie.